Nicolas Vassilievitch Gogol, V.I. Note de l'auteur. V.I. est une création colossale de l'imagination populaire. On appelle ainsi chez les petits Russiens le chef des gnomes dont les paupières pendent jusqu'à terre. Toute cette nouvelle est une tradition populaire. Je n'ai rien voulu y changer et je la rapporte presque dans la simplicité même où je l'ai entendue raconter. Dès que la cloche du séminaire, qui était pendue à la porte du couvent des confrères dans la bonne ville de Kiev, faisait entendre à pointe d'aube ses appels sonores, des groupes d'écoliers, grammairiens, rhétoriciens, philosophes, théologiens, accouraient de toutes parts. Les grammairiens, d'un âge encore tendre, se bousculaient les uns les autres et se lançaient des injures d'une voix de fossé. Leurs habits étaient le plus souvent sales, déchirés, et leurs poches toujours remplies de 1000 objets hétéroclites, tels que osselets, sifflets de plumes, croûtes de pâté, jeunes moineaux même, dont le pépiment indiscret, rompant parfois le silence sacré de la classe, attirait sur leurs possesseurs force coups de férule, force cinglés de verge. Les rhétoriciens marchaient certes avec plus de gravité. Mais si leurs habits étaient souvent vierges d'accrocs, leurs visages se paraient presque toujours d'ornements assez semblables aux figures de rhétorique. Un œil au beurre noir, par exemple, une cloque sur la lèvre ou quelque autre marque distincte. Cela devisait et jurait d'une voix de ténor. Quant aux philosophes, ils parlaient une octave plus bas et n'avaient dans leur poche que des rognures de tabac. Ils ne faisaient jamais de provisions, préférant dévorer illico l'aubaine qui leur tombait sous la patte. Ils sentaient tous la pipe et le brandevin, de si loin parfois que plus d'un artisan, allant à sa besogne, s'arrêtait en les croisant et flairait longtemps l'air comme un limier qui s'évente. À cette heure matinale, le marché s'ouvrait à peine, et les vendeuses de craquelins, de pain mollet, de pépins de pastèque, de tourteaux de pavot, se pendaient aux basques de ceux des écoliers dont les habits étaient faits de drap fin ou de coton. « Par ici, mes jeunes messieurs, par ici » criait-elle à qui mieux mieux. « Voyez les beaux craquelins, les beaux pains mollets, les beaux tortillons, les beaux croque-en-bouche. Regardez-moi la belle sucette. Achetez-la, mes jeunes messieurs !» criait une autre en brandissant une sorte de longue tresse en pâte de guimauve. « Ne lui achetez rien !» disait une voisine. « Voyez comme elle est laide! Quel nez à faire peur! Quelle main dégoûtante! Pouah !» Nos commères se gardaient toutefois d'importuner les philosophes et les théologiens, sachant du reste que, tout en se servant à pleine main, ces effrontés ne prenaient jamais les marchandises qu'à l'essai. En arrivant au séminaire, la gent écolière s'éparpillait dans les classes. Grandes pièces basses pourvues de petites fenêtres, de larges portes et de vieux bancs maculés. Les auditeurs faisaient réciter leurs leçons aux élèves. La voix perçante d'un grammairien se trouvait au diapason des petites vitres, qui lui répondaient presque à l'unisson. La voix de basse d'un rhétoricien, que ses lèvres épaisses rendaient, pour le moins, digne d'appartenir à la philosophie, bourdonnait dans un coin. Et, de loin, tout se perdait dans un confus mou-mou. Tout en écoutant les leçons, les répétiteurs regardaient du coin de l'œil sous le banc, où les poches de leurs pupilles laissaient apparaître un pain mollet, un ramequin, des pépins de potiron. Quand cette savante cohorte arrivait d'un peu trop bonne heure, ou quand on savait que les professeurs tarderaient un peu, Alors, d'un consentement unanime, s'engageait une bataille à laquelle tout le monde devait prendre part, y compris les auditeurs, chargés pourtant de veiller au bon ordre et aux bonnes mœurs de la gent écolière. Deux théologiens réglaient d'ordinaire l'ordonnance du combat. Tantôt chaque classe se battait à part, tantôt la troupe se divisait en deux camps, la bourse et le séminaire. En tout cas, l'initiative appartenait aux grammairiens, qui d'ailleurs, dès l'entrée en lice des rhétoriciens, se retiraient sur les hauteurs pour observer les chances du combat. Puis arrivait la philosophie et ses longues moustaches noires, puis enfin la théologie, avec ses larges nuques et ses grecs horrifiques. La théologie remportait presque toujours une victoire complète et refoulait jusque dans sa classe la philosophie, contrainte de se frotter les côtes et de s'affaler sur les bancs pour reprendre haleine. À son entrée, le professeur, qui dans son jeune temps avait pris part à de semblables échauffourées, devinait au visage cramoisi que la lutte avait été chaude. Et tandis qu'il cinglait à coups de verge les doigts de la rhétorique, un autre professeur, dans une autre classe, caressait à coups de férule les doigts de la philosophie. Cependant, les théologiens se voyaient traités de toute autre manière. Chacun d'eux recevait une mesure de gros poids, pour parler comme le régent, ou en d'autres termes, une bonne volée de coups de martinet. Les jours de grandes fêtes, séminaristes et boursiers s'en allaient dans les bonnes maisons montrer les marionnettes. Quelquefois, ils jouaient eux-mêmes la comédie, ou, dans les rôles d'Hérodiade ou de la femme de Putiphar, se distinguaient toujours quelques grands flandrins de théologiens, à peu près aussi haut que le clocher de Kiev. On leur offrait en remerciement une pièce de toile, un sac de millet, une moitié d'oie rôtie et d'autres bagatelles. Tout ce peuple savant, le séminaire comme la bourse, en dépit de la haine héréditaire qui les divisait, souffrait d'une extrême gueuserie, jointe à une voracité sans pareille. Le nombre des rissoles que chacun d'eux absorbait à son souper défiait tout calcul. Les offrandes des riches propriétaires ne pouvaient donc suffire à leur consommation. Alors le Sénat, à savoir les philosophes et les théologiens, envoyait, sous la conduite d'un philosophe, les grammairiens et les rhétoriciens remplir leurs sacs dans les potagers de la ville. Il lui arrivait même de diriger les opérations incorporées. Ces soirs-là, la bourse faisait une galime à frais de citrouille. Quant à messieurs les sénateurs, ils s'empiffraient à tel point de melons et de pastèques que le lendemain, ils récitaient à leurs répétiteurs deux leçons au lieu d'une. Tandis que leurs lèvres marmonnaient la première, la seconde rognonnait dans leur estomac. Boursiers et séminaristes portaient le même accoutrement, une sorte de longue lévite qui s'étendait jusqu'à nos jours, terme technique qui voulait dire plus bas que les talons. De tous les événements de l'année, le plus solennel, c'était les vacances, qui commençaient au mois de juin. À cette époque, toute la bourse regagnait d'ordinaire ses pénates. La grande route se couvrait de grammairiens, de philosophes, de théologiens. Celui qui n'avait pas de foyer était l'hôte d'un camarade. Les philosophes et les théologiens partaient en condition, c'est-à-dire qu'ils allaient donner des leçons aux fils de riches campagnards qui leur octroyaient en retour une paire de bottes, parfois même de quoi se payer une lévite. La confrérie voyageait en troupe, cassait la croûte en plein champ et dormait à la belle étoile. Chacun d'eux portait un sac qui contenait une chemise et une paire de bandes molletières. Les théologiens se montraient particulièrement économes et soigneux pour ne pas user leurs bottes, surtout quand il y avait de la boue. Ils les portaient sur l'épaule, pendus à un bâton, et, retroussant leurs culottes jusqu'aux genoux, pataugeaient intrépidement dans les mares. un village apparaissait-il à l'horizon, ils abandonnaient aussitôt la grande route, et s'alignant devant la maison de meilleure apparence, ils entonnaient à tue-tête une complainte. Le maître du logis, quelques vieux cosaques laboureurs, les écoutait longtemps, la tête appuyée sur les deux mains. Puis il se prenait à sangloter et, se tournant vers sa ménagère, « Femme, lui disait-il, ce que chantent les écoliers est vraiment bien édifiant. Donne-leur donc du petit salé et ce que nous pouvons encore avoir en fait de mangeaille. » Aussitôt, une pleine terrine de ramequins était versée dans le sac des étudiants. Un beau morceau de petit salé, quelques pains de seigle, voire une poule attachée par les pattes, complétaient l'aubaine. Après y avoir fait honneur, grammairiens, rhétoriciens, philosophes et théologiens poursuivaient leur route. Toutefois, plus ils allaient de l'avant, plus leur nombre diminuait. La caravane s'éparpillait de droite et de gauche, et ne comprenait bientôt plus que ceux dont les pénates étaient le plus éloignés de la ville. Au cours d'un voyage de ce genre, trois boursiers quittèrent la grande route pour se ravitailler dans le premier village qu'ils rencontreraient, car depuis longtemps leur sac était vide. C'était le théologien Aliava, le philosophe Thomas Brutus et le rhétoricien Tibère Gorobet. Haut de taille et large d'épaule, le théologien Aliava avait la singulière habitude de s'approprier tout ce qui lui tombait sous la main. Il avait d'ailleurs, surtout après boire, des accès d'humeur sombre. Il se tenait alors au plus fort de la brousse et l'on avait toutes les peines du monde à l'y retrouver. Le philosophe Thomas Brutus était au contraire un joyeux compagnon. Il aimait fort à rester couché, à fumer la pipe. Quand il faisait ribote, il ne manquait jamais de louer des musiciens et de danser un trépac endiablé. Il goûtait fréquemment au gros pois, aventure qu'il acceptait avec une parfaite indifférence. « Ce qui doit arriver, arrive !» constatait-il philosophiquement. Le rhétoricien Tibère Gorobet n'avait encore le droit ni de porter moustache, ni de boire la goutte, ni de fumer la pipe. Son crâne ne s'ornait que d'un hareng. Note de l'auteur. Hareng, longue touffe. Note de l'auteur. Hareng, longue touffe de cheveux que l'on enroule derrière l'oreille. Preuve que son caractère se formait à peine. Toutefois, les grosses bosses au front, avec lesquelles il arrivait souvent en classe, permettaient de prévoir qu'il deviendrait un excellent homme de guerre. Le théologien Aliava et le philosophe Thomas lui témoignaient leur protection, en le tirant souvent par le toupet, et l'employaient non moins souvent en qualité de commissionnaire. Le soir tombait déjà quand ils s'engagèrent dans un chemin de traverse. Le soleil venait de se coucher. L'atmosphère était encore saturée de chaleur. Le théologien et le philosophe marchaient en silence, la pipe aux dents. Le rhétoricien Tibère Gorobet abattait à coups de bâton les têtes des chardons qui longeaient le chemin. Le dit chemin serpentait sous des bouquets de chéneaux et de coudriers disséminés parmi les prairies. Des coteaux, des collines vertes et rondes comme des coupoles d'église, de ci, de là, rompaient la monotonie de la plaine. Par deux fois, des champs de blé semblèrent annoncer l'approche d'un village. Mais nos étudiants les avaient dépassés depuis une bonne heure, sans qu'apparût encore la moindre habitation. Les ténèbres envahissaient le ciel, une dernière lueur rougeâtre pâlissait à l'occident. « Que diantre y a-t-il là ? » s'écria enfin le philosophe Thomas Brutus. « Il me semblait pourtant bien que nous arrivions à un village. » Sans souffler mot, le théologien parcourut du regard les environs. Puis il remit sa pipe entre ses dents, et tous trois poursuivirent leur route. « Ma parole ! » dit de nouveau le philosophe en s'arrêtant. « On ne voit même pas le poing du diable.
Nous finirons bien par trouver un village,
dit cette fois le théologien, mais sans quitter sa pipe. Entre-temps, la nuit était venue, et une nuit fort sombre. De légers nuages augmentaient l'obscurité, et selon toute apparence, l'on ne pouvait compter ni sur la lune ni sur les étoiles. Les boursiers s'aperçurent que depuis un bon moment, ils faisaient fausse route.
« Ah ça, mais où est donc le chemin ?»
s'écria le philosophe d'une voix haletante, après avoir en vain tâtonné du pied à droite et à gauche. Le théologien ne répondit d'abord rien, mais après mûre réflexion,
« Effectivement, la nuit est noire, »
proféra-t-il. Le rhétoricien se coucha sur le ventre et se mit à chercher le chemin en rampant. Mais ses mains ne rencontrèrent que des terriers de renard. Jamais chariot, semblait-il, n'avait laissé de traces dans cette steppe sans fin. Au prix de nouveaux efforts, nos voyageurs avancèrent encore quelque peu sans que le tableau changeât. Le philosophe essaya en vain de crier. Sa voix se perdit dans l'air, et pour toute réponse, ils ne perçurent qu'un léger gémissement qui ressemblait à un lointain hurlement de loup.
« Diable ! Que faire ? » dit le philosophe.
« Nous arrêter et passer la nuit à la belle étoile !» répondit le théologien en mettant la main dans sa poche pour en tirer son briquet et rallumer sa pipe. Le philosophe ne pouvait admettre pareille proposition. Il avait l'habitude d'ingurgiter tous les soirs 15 bonnes livres de pain accompagnées de 4 non moins bonnes livres de lard. Il sentait donc dans son estomac un vide insupportable. En outre, malgré son humeur joviale, le philosophe craignait un peu les loups.
« Eh non, Aliava, jamais de la vie » déclara-t-il tout net. On ne peut tout de même pas se coucher comme un chien sans s'être mis quelque chose sous la dent. Essayons encore de trouver une habitation. Nous aurons peut-être la chance de boire au moins la goutte avant de dormir. »
Au mot de « goutte », le théologien cracha énergiquement de côté.
« Oui, bien sûr, » approuva-t-il. « Nous n'allons pas coucher dehors. »
Les boursiers se remirent donc en marche. À leur immense joie, ils entendirent bientôt aboyer dans le lointain. Après avoir écouté attentivement d'où venait cet appel, ils se dirigèrent avec plus de courage de ce côté et aperçurent bientôt de la lumière.
« Un village ! Parole d'honneur, un village !»
s'écria le philosophe. Ses conjectures ne le trompaient point. Au bout de quelques instants, ils rencontrèrent un petit hameau, qui ne comprenait que 2 maisons réunies par une cour commune. On voyait de la lumière aux fenêtres. Une dizaine de pruniers étendaient leurs branches par-dessus la clôture. En regardant par les fentes du portail, nos voyageurs aperçurent, à la lueur de quelques rares étoiles, des chariots de rouliers.
« En avant, les gars !» dit le philosophe. « Il s'agit de ne pas flancher et d'obtenir un gîte coûte que coûte. »
Les 3 hommes de science frappèrent ensemble à la porte et s'écrièrent d'une voix
« Ouvrez !»
La porte d'une des masures cria sur ses gonds, et au bout d'une minute, nos boursiers virent apparaître devant eux une vieille femme engoncée dans une peau de mouton.
« Qui est là ? »
cria-t-elle en toussant sourdement.
« Laisse-nous passer la nuit chez toi, ma bonne, nous nous sommes égarés. » Et il fait aussi mauvais dans la campagne que dans un ventre affamé.
« Et quels gens êtes-vous ? »
« Des gens de tout repos, le théologien Aliava, le philosophe Brutus et le rhétoricien Gorobé. »«
Impossible !» grogna la bonne femme. « C'est plein de monde chez nous, tous les coins sont occupés. Où vous mettrai-je ? Et puis, grand et fort comme vous êtes, vous feriez crouler ma maison si je vous y logeais. » Je les connais, ces philosophes et ces théologiens. Quand on s'avise de recevoir de pareils ivrognes, tout ce qu'on a est au pillage. Allez-vous-en, il n'y a pas de place ici pour vous. Prends pitié de nous, ma bonne. Tu ne vas pas laisser périr de gaieté de cœur des âmes chrétiennes. Mets-nous où tu voudras, et si nous faisons ceci ou cela, enfin n'importe quoi, que nos mains se dessèchent et qu'il nous arrive ce que Dieu seul peut savoir. »
La vieille parut ébranlée. « Soit, dit-elle après un moment de réflexion,
je vais vous ouvrir, mais je vous placerai tous trois dans des endroits différents. Je ne dormirai pas tranquille si je vous savais ensemble. »
« Comme tu voudras, » acquiescèrent les étudiants. « Nous n'avons rien à redire. »
Le portail grinça et ils pénétrèrent dans la cour.
« Et maintenant, ma bonne, » dit le philosophe tout en la suivant, « est-ce que par hasard il y aurait moyen de... Tu me saisis, hein ? Ma parole, je sens comme des roues de chariot me circuler dans le ventre. Je n'ai pas eu depuis ce matin la moindre miette dans la bouche.
Voyez-moi encore ce qu'il faut, bougonna la vieille.
Non, mon ami, ne t'attends à rien du tout de ce genre. Je n'ai pas chauffé mon poil de la journée.
Pourtant, insista le philosophe, nous t'aurions payé cela demain, et en belles espèces sonnantes.
Compte là-dessus, ma vieille,
ajouta-t-il à part soi.
Marchez, marchez, et contentez-vous de ce qu'on vous donne. En voilà des faiseurs d'embarras.
Grande fut à ces paroles la déception du philosophe Thomas. Mais soudain, son nez flaira une odeur de poisson séché. Lorgnant aussitôt les grègues du théologien qui marchait à ses côtés, il vit qu'une énorme queue de poisson sortait de la poche du compère. Aliava avait déjà eu le temps de subtiliser une belle carpe dans l'un des chariots. C'était d'ailleurs là un larcin purement désintéressé, commis par simple habitude. Il n'y songeait déjà plus, et quêtait de ses yeux fureteurs quelque objet de bonne prise, fût-ce une simple roue cassée. Le philosophe Thomas put donc sans aucun scrupule plonger sa main dans la poche du digne théologien comme dans la sienne propre, et en extraire fort adroitement le poisson. La vieille assigna aux écoliers des gîtes différents. Elle introduisit le rhétoricien dans la chaumine, puis elle enferma le théologien dans un réduit vide, et le philosophe dans une bergerie également vide. Resté seul, le philosophe dévora sa carpe en moins d'un instant, parcourut du regard le palis de la bergerie, donna un coup de pied à un cochon curieux qui passait son groin par une fente, et s'étendit sur le côté droit. Il allait s'endormir du sommeil du juste, quand soudain la petite porte basse de l'enclos s'ouvrit, et la vieille entra en se courbant.
« Eh bien, grand-maman, que viens-tu faire ici ? » dit le philosophe.
Mais la vieille allait droit à lui les bras ouverts.
« Eh eh ! » pensa le philosophe. « Voilà où tu veux en venir. Grand merci, ma charmante !»
Il recula d'instinct. Mais sans plus de cérémonie, la vieille s'approcha de nouveau.
« Écoute, bonne maman, » dit le philosophe.
« Nous sommes en carême, et je suis ainsi fait que pour 1000 ducats je ne toucherais à la viande. »
Cependant, la vieille, toujours sans souffler mot, étendait vers lui des bras avides et tâchait de le saisir. Une terreur subite s'empara du philosophe, surtout quand il vit les yeux de la gaillarde étincelaient d'une lueur étrange.
« Comme veux-tu, grand-maman ? Va-t'en, va-t'en, au nom du ciel » s'écria-t-il.
Sans desserrer les lèvres, la vieille fonçait sur lui. Déjà ses bras la grippaient. Le philosophe bondit sur ses pieds, prêt à fuir. La vieille lui barra la porte, darda sur lui son regard flamboyant, marcha de nouveau à sa rencontre. Il voulut la repousser, mais à sa grande surprise, il s'aperçut que ses bras ne pouvaient se lever, ni ses jambes bouger. Sa voix elle-même ne retentissait plus. Ses lèvres remuaient sans émettre aucun son. Il ne percevait que les battements de son cœur. Il vit la vieille s'approcher de lui, lui croiser les deux bras sur la poitrine, lui courber la tête, se jeter sur son dos avec l'agilité d'un chat. Elle lui cingla les côtes de son balai, et il partit d'un trait, trottinant comme un cheval de selle.
Tout cela s'était fait si rapidement que le pauvre philosophe n'avait pas eu le temps de se reconnaître. Il saisit ses genoux à deux mains dans l'intention d'arrêter sa course. Mais, aux stupeurs, ses jambes galopaient contre sa volonté et faisaient des bonds dignes d'un cheval tcherkesse. Le hameau était déjà loin. Une vaste plaine s'ouvrait devant eux, que flanquait une forêt d'un noir de suie. « Mais c'est une sorcière !» put enfin se dire Thomas. La lune, en son premier quartier, brillait au firmament. La timide lumière de minuit, toute pénétrée de molles vapeurs, s'étendait doucement sur la terre comme un voile diaphane. Les bois et les prairies, le ciel et la vallée, tout semblait dormir les yeux ouverts. Aucune brise n'agitait l'air moite. Les ombres des arbres et des buissons tombaient longues et aiguës, comme des queues de comètes sur la pente douce de la plaine unie. Telle était la nuit, tandis que le philosophe Thomas Brutus galopait avec son bizarre cavalier sur le dos. Une langueur inconnue, angoissante et douce à la fois, s'insinuait en son cœur. Il baissa la tête. Alors, l'herbe de la steppe, que pourtant il frôlait presque, lui parut croître très loin, très bas, tandis qu'au-dessus d'elle s'étendait une nappe d'eau claire comme une source de montagne. Cette herbe formait une sorte de fond de mer limpide, transparent jusqu'en ses profondeurs. Du moins, il y voyait sa propre image réfléchie avec celle de la vieille qui chevauchait sur son dos. Au lieu de la lune, un soleil inconnu promenait sa lumière sur cette mer. Une ondine, à l'abri d'une touffe de roseaux, laissait entrevoir son dos, sa jambe, son corps souple, nerveux, tout en blottant et tout étincelle. Tantôt, son visage aux yeux clairs et perçants tourné vers lui, elle s'approche en roucoulant sa chanson insinuante, et quand elle atteint presque la surface de l'eau, elle tressaille d'un rire éclatant, puis soudain plonge et s'éloigne. Tantôt elle se renverse sur le dos, ses formes vaporeuses ondulent capricieusement, et sous la caresse du soleil nocturne, ses seins prennent une blancheur mate de porcelaine tendre. Une foule de petites bulles les couvrent, comme autant de perles. Elles frissonnent toutes, et rient au fond de l'eau. Voit-il cela? Ne le voit-il pas? Rêve-t-il? Est-il éveillé? Et là-bas, qu'entend-il? Est-ce le vent qui souffle? Est-ce une musique qui s'élève? Cela résonne, bruit, s'étend, s'approche, pénètre dans l'âme comme un trille aigu. Qu'est-ce que cela veut dire? Songeait, tout en regardant en bas, le philosophe Thomas Brutus, toujours lancé à fond de train. Ruisselant de sueur, il éprouvait une sensation diaboliquement agréable. Une jouissance atroce, épuisante. Il croyait parfois n'avoir plus de cœur et posait avec effroi sa main sur sa poitrine. Éperdu, brisé de fatigue, il tâchait de se remémorer toutes les prières qu'il connaissait. Quand soudain, il éprouva un soulagement. Sa marche devenait plus lente, la sorcière l'étreignait plus mollement, l'herbe drue frôlait maintenant ses pieds, et il n'y voyait plus rien de surnaturel. Le pâle croissant de la lune brillait au firmament. « Bien, bien !» pensa le philosophe Thomas, qui se prit à réciter presque à haute voix ses exorcismes. Et soudain, avec la promptitude de l'éclair, il se débarrassa de la vieille et lui sauta à son tour sur le dos. La sorcière se mit à courir à tout petits pas, mais avec une rapidité telle que son cavalier pouvait à peine respirer. La terre semblait fuir sous ses pieds. N'eût été la rapidité de la course qui les confondait devant ses yeux, il aurait pu, à la lueur indécise de la lune, distinguer les objets épars sur la plaine mate. Il saisit une bûche au passage et se mit à battre de toutes ses forces la sorcière, lui arrachant d'abord des hurlements de colère, puis des gémissements de plus en plus affaiblis, plus doux, plus langoureux. On eût dit le tintement frêle d'une clochette d'argent. Ses sons plaintifs pénétraient jusqu'à l'âme du philosophe. « Est-ce bien une vieille femme ?» se demandait-il involontairement.
« Oh, je n'en puis plus !»
murmura-t-elle enfin d'une voix brisée en se laissant choir sur le sol. Le philosophe se remit sur pied, et comme l'aurore se levait, illuminant au loin les coupoles dorées des églises de Kiev, il osa dévisager la sorcière couchée devant lui. C'était une belle jeune fille, avec de grands cheveux épars et des cils longs comme des flèches. Ses bras nus et blancs écartés sur le sol, elle gémissait en levant au ciel des yeux remplis de larmes. La pitié, l'effroi, un trouble étrange aussi s'emparèrent de Thomas. Tremblant comme la feuille, il se mit à courir à toutes jambes, son cœur battait à se rompre. Il ne s'expliquait point le bizarre sentiment qui pour la première fois l'agitait. La campagne avait perdu tout attrait pour lui, et il se hâta de regagner Kiev, sans pouvoir oublier un seul instant l'hallucinante aventure. On ne voyait presque plus d'écoliers dans la ville. Tous, qu'ils fussent ou non pourvus de conditions, avaient déjà pris la clé des champs, car dans les campagnes de la petite Russie, il est bien facile de se régaler sans bourse déliée, de crème, de fromage, de boulettes, de ramequins larges comme votre chapeau. La grande bâtisse à demi ruinée où logeaient les boursiers était complètement vide. Notre philosophe eut beau fureter dans tous les coins, explorer même tous les trous du toit, cachettes ordinaires des écoliers, il n'y découvrit pas le moindre morceau de lard, pas le moindre chanteau de pain. Il ne perdit pas la tête pour autant, et trouva rapidement remède à sa détresse. Après avoir arpenté par trois fois en sifflotant la place du marché, il échangea un clignement d'œil avec une accorte veuve en bonnet jaune, qui, tout au bout de la dite place, faisait commerce de rubans, de plombs de chasse et de roues de charrette. Le jour même, attablé dans une maisonnette en pisée qu'ombrageait une cerisaie, il fit honneur à un poulet, à des galettes de millet, bref, à toutes sortes de victuailles dont l'énumération n'en finirait plus. Ce soir-là, on put voir le philosophe commodément établi au cabaret. Étendu sur un banc, un grand pot d'étain devant lui, il fumait sa pipe comme de coutume. Il jeta ostensiblement un demi-ducat au cabaretier juif. Il regardait les allants et venants d'un œil insouciant et satisfait, et ne pensait plus du tout à sa fantastique aventure. Cependant, le bruit se répandit en tout lieu que la fille d'un des plus riches centeniers, dont la terre se trouvait à quelque 12 lieues de Kiev, était revenue un jour d'une promenade toute rouée de coups et ayant à peine la force de marcher. Sentant son heure dernière approcher, elle avait témoigné le désir que l'oraison pour les agonisants et, 3 jours après sa mort, les prières pour les trépassés furent récitées par un certain Thomas Brutus, séminariste dans la bonne ville de Kiev. Notre philosophe apprit la nouvelle du recteur en personne, qui le convoqua dans sa chambre pour lui signifier d'avoir à partir sans délai. Le noble seigneur avait mandé tout exprès une voiture et des gens pour le prendre. Notre philosophe tressaillit. Il éprouvait un malaise indéfinissable, la vague appréhension d'un malheur. Aussi déclara-t-il tout franc qu'il ne partirait point. « Écoute, dominé Thomas, lui rétorqua le recteur, qui dans certains cas en usait fort civilement avec ses subordonnés. Personne ne songe à te demander ton avis là-dessus. Note seulement ceci. Si tu t'avises de regimber le moins du monde, je te ferai frotter le dos et le reste avec de bonnes verges de bouleau, de façon que tu n'éprouves pas, d'ici belle lurette, le besoin d'aller te faire frictionner aux étuves. » Sans plus rien répliquer, le philosophe sortit en se grattant légèrement la nuque, bien résolu d'ailleurs à mettre, dès la première occasion, son salut dans ses jambes. Il descendait tout pensif l'escalier plutôt raide qui menait à la cour complantée de peupliers,
quand il perçut assez nettement la voix du recteur. L'excellent homme donnait des ordres à son célérier ainsi qu'à une autre personne, envoyée sans doute par le centenier. « Remercie le digne seigneur de sa farine et de ses œufs, » disait le recteur. « Dis-lui que je lui enverrai, dès qu'ils seront prêts, les livres dont il me parle dans sa lettre. Je les ai donnés à un écrivain pour qu'il les copie. Et n'oublie pas, mon bon ami, de rappeler à ton maître qu'il y a d'excellents poissons dans ses viviers, de beaux esturgeons principalement. Je le sais fort bien, et lui serai reconnaissant de m'en faire tenir à l'occasion. Ici, au marché, le poisson est cher et mauvais. Et toi, Lavetouk, donne à ces braves gens un gobelet de brandevin. Quant au philosophe, n'oubliez pas de l'attacher, sans quoi il aurait tôt fait de déguerpir.
« Voyez-vous ce fils du diable ! » ronchonna le philosophe à part soi. « Il a flairé le pot aux roses !»
Descendu dans la cour, il aperçut une kibitka qu'il prit tout d'abord pour une grange montée sur roues. Elle avait en vérité la profondeur d'un four à briques. C'était l'habituel véhicule de Cracovie, dans lequel les Juifs s'entassent par 50 à la fois, sans compter les marchandises, pour une tournée dans toutes les villes où ils ont flairé une foire. Une demi-douzaine de Cosaques, gaillards robustes encore qu'un peu mûrs, l'attendaient. Leur caftan de drap fin à brandebourgs faisait voir qu'ils appartenaient à un seigneur de quelque importance. De légères cicatrices révélaient qu'ils avaient fait la guerre, et non sans gloire.
« Que faire ? » songea le philosophe. « Ce qui doit arriver, arrive. »
Et s'adressant aux Cosaques, « Bonjour, camarades !» leur dit-il d'une voix forte. « Bonjour, sire philosophe !» lui répondirent certains d'entre eux. «
Alors, comme ça, il faut que je vous tienne compagnie. Vous avez là une fameuse guimbarde !»
poursuivit-il en grimpant dans la voiture.
« Il n'y avait, ma foi, qu'à louer des musiciens !» « C'est une vraie salle de danse. »«
Oui, c'est un équipage bien conditionné, » répondit un des Cosaques en s'asseyant sur la ridelle à côté du cocher, dont la tête était enveloppée d'un torchon, car il avait trouvé moyen de laisser son bonnet en gage à quelques cabaretiers.
Les cinq autres s'introduisirent avec le philosophe dans les profondeurs de la voiture et s'installèrent sur des sacs remplis d'objets de toutes sortes dont ils avaient fait emplette en ville.
« Je serais curieux de savoir, » dit le philosophe, « à supposer que l'on chargea cette guimbarde de quelques marchandises, comme par exemple de sel ou de fer en barre, combien il faudrait de chevaux pour la traîner ?»«
Pour sûr, » dit au bout d'un bon moment le Cosaque qui avait pris place auprès du cocher. On aurait besoin d'un nombre de chevaux en conséquence. »
Après une réponse aussi péremptoire, le Cosaque se crut en droit de garder le silence pour le reste de la route. Notre philosophe grillait d'envie de savoir qui était ce centenier, quel caractère il avait, ce qu'on pensait de sa fille, cette agonisante qui était rentrée de promenade d'une manière si étrange, et dont l'histoire se trouvait brusquement mêlée à la sienne propre. Bref, tout le train de vie de cette maison. Il pressa donc les Cosaques de questions. Mais les dix Cosaques étaient sans doute des philosophes comme lui, car, affalés sur les sacs, ils se contentaient pour toute réponse de fumer leur brûle-gueule. Cependant, l'un d'eux, se tournant vers l'automédon, lui fit cette courte recommandation.
« Prends garde, Overco, espèce de vieil étourneau. Quand tu arriveras au cabaret qui se trouve sur la route de Tchoukaïrlovo, n'oublie pas de t'arrêter et de nous réveiller, les camarades et moi, pour le cas où nous serions endormis. »
Cela dit, il ne tarda pas, en effet, à ronfler. Mais sa recommandation était bien inutile, car à peine la guimbarde fut-elle en vue du cabaret, que tous s'écrièrent d'une seule voix « Halte !» Au reste, les chevaux d'Auvercot avaient depuis longtemps pris l'habitude de s'arrêter d'eux-mêmes devant chaque bouchon. Malgré la chaleur accablante d'une journée de juillet, tous nos gens sautèrent à bas de la voiture et se précipitèrent dans l'ignoble taudis. Le tenancier, qui était juif, accueillit ces vieilles pratiques avec force démonstration de joie. Il apporta dans un pan de sa lévite quelques saucissons de porc et, après les avoir déposés sur la table, se détourna de ce mets interdit par le Talmud. Quand tout le monde se fut installé, un énorme pot de terre apparut devant chaque convive. Le philosophe Thomas dut prendre part à la frérie. Et comme les petits Russes, on le vint entendre, toute la pièce retentit bientôt de sonores accolades.
« Viens ça, Spiride, que je t'embrasse !»«
Sur mon cœur, Doroche, sur mon cœur !»
Une joue appuyée sur son poing, le plus vieux de la bande, à en juger par ses moustaches grises, sanglotait à fendre l'âme. Il n'avait plus ni père ni mère, il était seul au monde. Un autre, grand raisonneur, lui prodiguait des consolations. « Ne pleure pas, voyons, ne pleure pas, Dieu sait ce qu'il fait !» Un autre, celui qui avait nom d'Oroche, se montra soudain fort curieux.
« Voyons, demandait-il sans cesse au philosophe Thomas. « Dites-moi un peu ce qu'on vous enseigne au séminaire. C'est-il ce que notre chantre nous dégoise à l'église, ou bien c'est-il autre chose ?»«
Laisse là tes questions, » disait le raisonneur d'une voix empâtée. « Va pour ce qui en est, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait tout. »«
Non, non, » insistait Doroche, « je veux savoir ce qu'il y a dans leurs livres. » C'est peut-être pas du tout la même chose que dans ceux de notre chantre.
« mon Dieu !» reprenait le digne mentor. « Peut-on dire des choses pareilles? C'est la volonté du bon Dieu, voyons. Et ce que Dieu a fait, on n'y peut rien changer.
Je veux savoir tout ce qui est écrit. Je veux entrer au séminaire. Parole d'honneur.
Tu ne me crois peut-être pas capable d'apprendre ce qu'on y enseigne.
J'apprendrai tout.
Oh mon Dieu !» soupira le consolateur, et il laissa choir sa tête sur la table, car il n'était plus en état de la tenir debout.
Cependant, les autres Cosaques parlaient des seigneurs, ou se demandaient pour quelle raison il y a une lune au ciel. Cette disposition des esprits parut au philosophe Thomas propice à ses desseins. Il s'adressa tout d'abord au Grison, qui se lamentait d'avoir perdu père et mère.
« Qu'as-tu à geindre comme ça, vieux frère?
Moi aussi je suis orphelin. Laissez-moi partir, mes braves gens. Qu'avez-vous besoin de moi ?»«
Oui, oui, » approuvèrent quelques-uns. « Laissons-le partir. C'est un orphelin que diantre. Qu'il aille où bon lui semble. »
« Oh, mon Dieu !» dit le consolateur en soulevant la tête.
« Laissez-le partir, qu'il aille son chemin, le pauvre !»
Et déjà, les Cosaques s'apprêtaient à lui donner d'eux-mêmes la clé des champs, quand celui qui s'était montré si curieux les arrêta.
« Non, » dit-il, « je veux causer avec lui du séminaire, rapport que moi aussi, je veux y entrer au séminaire. »
D'ailleurs, notre philosophe eût été bien incapable de prendre la fuite. En effet, dès qu'il essaya de se lever, ses jambes lui parurent de bois, et il aperçut une telle quantité de portes dans la pièce qu'il n'aurait pu trouver la véritable. Le soir tombait déjà quand la compagnie songea à reprendre sa route. Après s'être enfournés dans la guimbarde, ils partirent en excitant les chevaux et en beuglant une chanson dont il eût été fort difficile de saisir les paroles et la mélodie. Ils errèrent ainsi une bonne partie de la nuit, perdant à chaque instant le chemin, que pourtant ils connaissaient par cœur. Une côte très rapide les amena enfin dans un vallon, et le philosophe aperçut, de chaque côté du chemin, des palissades et des haies flanquées de petits arbres bas et dominées par des toitures. c'était un gros village appartenant aux centeniers. Il était déjà plus de minuit. De petites étoiles trouaient le ciel sombre. Aucune lumière ne brillait. Accueillis par un concert d'aboiements, ils pénétrèrent dans la grande cour, autour de laquelle se pressaient des granges et des masures. En face du portail, une bâtisse un peu plus considérable servait sans doute de logis aux centeniers. La guimbarde s'arrêta devant une façon de hangar où nos voyageurs s'allèrent gîter. Le philosophe eut volontiers jeté un coup d'œil sur la demeure seigneuriale. Mais, si grand qu'il les écarquilla, tout se brouillait devant ses yeux. Il prenait la maison pour un ours et la cheminée pour le recteur. Il eut un geste de dépit et s'en fut, lui aussi, dormir. Quand il s'éveilla, une agitation extrême régnait dans le domaine. La demoiselle était morte pendant la nuit. Les domestiques effarés couraient en tous sens. Quelques bonnes femmes pleuraient. Une foule de curieux regardait par les trous de la clôture, dans la cour, où il n'y avait pourtant rien à voir. Le philosophe put maintenant examiner à loisir les lieux que l'obscurité ne lui avait point permis de discerner. Le corps de logis n'était qu'une maisonnette couverte de chaume, telle qu'on les construisait autrefois dans la petite Russie. Un petit fronton, haut et pointu, percé d'une fenêtre ronde, assez semblable à un œil levé vers le ciel, tout peinturluré de croissants rouges, de fleurs jaunes et bleues, s'appuyait sur des colonnettes en bois de chêne, rondes jusqu'au milieu, hexagonales à la base et curieusement travaillées au chapiteau. Le dit fronton abritait un modeste perron flanqué de bancs. Des auvents étayés par des colonnes du même genre, mais torses, couraient le long de la façade, qu'ombrageait un poirier pyramidal aux fleurs tremblotantes. Deux rangées de granges parallèles formaient avenue au milieu de la cour. Près du portail, deux caveaux triangulaires, également couverts en chaume, se faisaient vis-à-vis. Une porte basse y donnait accès. Toutes sortes d'enluminures agrémentaient leurs trois pans de mur. Sur l'un d'eux, un cosaque, juché sur un tonneau, brandissait au-dessus de sa tête un pichet orné de cette inscription « Je boirai tout ». Sur un autre, une gourde et des flacons formaient le fond d'un tableau que rehaussait un cheval les pieds en l'air. Une pipe, un tambour de basque et cette noble inscription « Le vin fait la joie du cosaque ». À l'énorme lucarne de l'une des granges apparaissait un tambour et des trompettes de cuivre. Deux canons étaient en batterie près du portail. Le seigneur, à n'en point douter, aimait à se réjouir. Les joyeuses clameurs des festins devaient souvent retentir dans tous les coins de son domaine. Deux moulins à vent précédaient le portail. Un vaste jardin s'étendait derrière le logis. Ces arbres touffus masquaient les masures du village. Seules les faîtes noircies des cheminées apparaissaient à travers les cimes. Tout le village tenait à l'aise sur le large ressaut d'une colline. Une autre colline bouchait la vue du côté du nord et dévalait presque à pic jusqu'à la porte même du domaine. Regardée d'en bas, elle semblait encore plus abrupte. De maigres broussailles s'accrochaient de ci de là à son sommet et tranchaient en noir sur le ciel bleu. Ses flancs nus, tout sillonnés par les eaux torrentielles, inspiraient des pensées plutôt lugubres. Deux chaumières s'agrippaient à cet escarpement. Un gros pommier, dont les racines s'accotaient à de petits pieux soutenant de la bonne terre, étendait au-dessus de l'une d'elles ses vastes branches. Les pommes, qu'abattait le vent, roulaient jusque dans la grande cour. Une route en lacet descendait la colline et venait aboutir au village en passant devant la propriété. Le philosophe mesura des yeux l'inclinaison de cette pente et, songeant au voyage de la veille,
Allons, se dit-il, pour que, conduite par une bande d'ivrognes, l'énorme guimbarde et tout son chargement n'aient point culbuté dans ce précipice, il faut évidemment que les chevaux du centenier soient des bêtes fort adroites, ou que ces cosaques aient la tête bien solide. Le philosophe se trouvait sur le point culminant de la cour. Quand il reporta ses regards du côté opposé, il découvrit un tout autre paysage. Le village s'étendait par paliers jusqu'à la plaine, où des prairies déroulaient à perte de vue leur verdure, dont l'éclat s'assombrissait par degrés. Des taches d'un bleu sombre y signalaient à plus de 5 lieues la présence de nombreux hameaux. Une chaîne de collines courait sur la droite de cette plaine. La ligne sombre et miroitante du Dniepr se devinait au loin. « Quel beau pays !» se dit le philosophe. « Voilà où il ferait bon vivre, pêcher dans le fleuve et les étangs, chasser au filet ou au fusil le courlis et la canepetière. Sans compter les outardes, qui doivent abonder dans ces prairies. On pourrait aussi sécher des quantités de fruits et les vendre à la ville, ou, mieux encore, en tirer de l'eau-de-vie. Car, à mon sens, la meilleure eau-de-vie de grain ne soutient pas la comparaison avec le ratafia. Il ne serait pas mauvais non plus de songer à jouer des jambes. Il aperçut derrière la haie un petit sentier envahi par les hautes herbes. Il y mettait le pied machinalement avec l'intention de faire d'abord un semblant de promenade, puis de gagner subrepticement le large à l'abri des maisons, quand soudain une main plus lourde s'abattit sur son épaule. Le même vieux cosaque qui, la veille au soir, avait tant déploré et sa solitude et la perte de ses pères et mères, était planté derrière lui.
« C'est en vain que tu t'imagines, messire philosophe, pouvoir t'enfuir de chez nous,
lui dit-il. On ne s'échappe pas d'ici comme ça, et puis les chemins sont mauvais pour les piétons. Allons plutôt trouver notre maître. Il y a beau jeu qu'il t'attend dans sa belle chambre. »
« Eh, mais je ne demande pas mieux. Allons-y, » dit le philosophe,
et il emboîta le pas au cosaque. Le centenier, barbon à moustache grise, les traits empreints d'une morne tristesse, était assis devant une table, la tête appuyée sur ses deux mains. Il n'avait guère dépassé la 50aine, mais son visage bouleversé, sa pâleur cadavérique, témoignait qu'un instant avait suffi à ravager son âme, que toute sa gaieté d'autrefois, toute sa vie bruyante, avait disparu pour toujours. À l'entrée de Thomas, suivi du vieux cosaque, il écarta une de ses deux mains et répondit d'un léger hochement de tête à leur profond salut. Thomas et son cosaque demeuraient près du seuil, à distance respectueuse.
« Quel est ton nom et ton état, mon brave ?»
s'enquit le centenier d'une voix neutre.
« Je m'appelle Thomas Brutus, boursier de mon état et élève de philosophie pour vous servir. » « Et qui était ton père ?»«
Je n'en sais rien, noble seigneur. »
« Et ta mère ?»«
Je n'en sais rien non plus. J'ai dû en avoir une, bien sûr, le bon sens le veut. » Mais qui était-elle? D'où venait-elle? Quand a-t-elle vécu? Aussi vrai que Dieu existe, messire, je l'ignore totalement. »
Le centenier parut réfléchir quelques instants. « Comment as-tu fait la connaissance de ma fille? »
« Sa connaissance, messire? Mais je vous jure que je ne l'ai jamais faite. Parole d'honneur, jamais. Depuis que je suis au monde, je n'ai pas encore eu affaire aux demoiselles. « Que le bon Dieu les bénisse, pour m'exprimer poliment. »«
Pourquoi donc est-ce précisément toi qu'elle a choisi pour réciter les prières sur son cercueil ?»
Le philosophe haussa les épaules.
« C'est le secret de Dieu. Les seigneurs ont parfois de ces lubies que le plus savant homme du monde ne saurait expliquer. Le fait est bien connu, et le proverbe assure à bon droit qu'il faut hurler avec les loups et danser au son de la flûte.
Tu ne m'en donnes pas à croire, sire philosophe.
Que le tonnerre me frappe sur place si je mens.
N'eût-elle vécu qu'une minute de plus, proféra douloureusement le centenier,
j'aurais certainement su de quoi il retourne. Ne permets à personne de réciter les prières sur mon cercueil, papa, mais envoie tout de suite chercher au séminaire de Kiev le boursier Thomas Brutus, qu'il prie 3 nuits pour mon âme pécheresse. Il sait.
Ce qu'il sait, je n'ai pas pu l'entendre. Elle est morte sur ce dernier mot. La pauvre petite colombe. Il faut croire, mon brave garçon, que la sainteté de ta vie et tes actes agréables à Dieu t'ont fait avantageusement connaître. Ma fille aura ouï parler de toi.
De moi ? S'écria le philosophe en reculant de surprise. La sainteté de ma vie !
Reprit-il en regardant le centenier droit dans les yeux.
Que le bon Dieu vous bénisse, messire ! Vous ne savez pas ce que vous dites ! Mais voyons, le dernier jeudi saint, excusez l'indécence, je me suis oublié chez la boulangère.
Il doit pourtant y avoir une raison à ce choix. Quoi qu'il en soit, tu vas commencer ton office aujourd'hui même.
J'aurais à dire à votre seigneurie, évidemment, tout homme, tant soit peu versé dans la Sainte Écriture, peut... Mais à mon avis, il serait plus convenable de faire venir un diacre, ou tout au moins un chantre. Ce sont gens d'expérience qui savent comment s'y prendre. Tandis que moi, je n'ai pas la voix qu'il faudrait, voyez-vous. Et puis, regardez un peu comme je suis fait. Je n'ai pas la moindre apparence de la gravité qu'il faudrait.
Comme tu voudras, mon ami. Seulement, en ce qui me concerne, j'exécuterai fidèlement les dernières volontés de ma colombe. Si donc, 3 nuits durant, à partir de ce soir, tu récites sur son cercueil les prières des morts, je te récompenserai largement. Sinon, je ne conseillerai pas au diable lui-même de m'échauffer la bile.
Ces derniers mots furent proférés sur un ton si énergique que notre philosophe en comprit aussitôt la signification.
« Suis-moi !»
reprit le centenier. Ils passèrent dans le vestibule. Le seigneur ouvrit la porte d'une chambre qui se trouvait vis-à-vis de la sienne, et dont le philosophe, après s'être arrêté un moment pour se moucher, franchit le seuil avec un effroi instinctif. Une grosse cotonnade rouge recouvrait le plancher. Dans un coin, sous les saintes images et sur une haute table parée d'un velours bleu frangé d'or, était étendu le corps de la morte. De grands cierges enguirlandés de viornes se dressaient près des pieds et de la tête. Leur lumière blafarde se perdait dans les rayons du jour. L'inconsolable père s'était assis devant la couche funèbre. Tournant le dos à la porte et dérobant ainsi au regard le visage de la défunte, à laquelle il tenait des propos peu faits pour rassurer le philosophe.
Ce que je regrette le plus, ma bien-aimée fille, ce n'est pas de te voir abandonner la terre à la fleur de ton âge, avant le terme qui t'était fixé, me laissant en proie à la tristesse et à l'affliction. Ce que je regrette, ma douce colombe de Dieu, c'est d'ignorer le nom de mon plus cruel ennemi. J'entends le misérable qui a causé ta mort. Si je savais qui a pu avoir l'audace de te faire affront ou proférer sur ton compte la moindre médisance, je jure devant Dieu que cet homme-là ne reverrait jamais ses enfants s'il est vieux comme moi, ni son père et sa mère s'il est encore dans la fleur de ses ans. Son corps servirait de pâture aux oiseaux de proie, aux bêtes fauves de la steppe. Mais hélas, ma fleurette, ma caillette, ma mignonnette, je devrais passer dans la douleur le reste de mes jours, contraint d'essuyer avec un pan de mon habit les grosses larmes qui couleront de mes yeux flétris. Tandis que mon ennemi se donnera du bon temps et rira en cachette du vieillard impuissant.
Il s'arrêta, à bout de force. Sa douleur déchirante éclata en un torrent de larmes. Touché d'une pareille affliction, Le philosophe tout sauta pour éclaircir sa voie. Le centenier se retourna et lui désigna sa place, près du chevet de la morte, devant un petit pupitre où reposaient quelques livres.
« 3 nuits seront bientôt passées, » se dit le philosophe. « Et puis le Seigneur me remplira les poches de ducats beaux et bons. »
Il s'approcha du lutrin, et après avoir toussé encore une fois, commença son office, sans détourner les yeux et sans pouvoir se résoudre à dévisager la morte. Au profond silence qui s'établit, il devina que le centenier s'était retiré. Il tourna lentement la tête, jeta sur la morte un regard furtif et...